Noam Ohana est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Noam.
Bonsoir.
Noam, vous êtes soldat des forces spéciales israéliennes et vous êtes de retour de la bande de Gaza. Merci d'accepter de nous parler. Et j'ai presque envie de dire, commençons par là, pourquoi vous acceptez de nous parler en revenant comme ça de Gaza sur une radio juive à Paris, sur Radio Shalom?
Plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'ai trouvé, même en suivant ça de loin, que il y avait presque un débat qui ressemblait à de la caricature ces derniers mois sur le conflit. Ça peut être vrai d'ailleurs de part et d'autre. Il faut savoir dire chez soi des choses inconfortables, que quand on dit des choses, même au sein de la communauté juive, qui peuvent être simplistes, eh ben, elles sont simplistes. Et souvent, en France, on entend des choses simplistes de l'autre côté, qui prennent un parti pris pour des forces terriblement obscures du Hamas, etc. Mais nous aussi, il faut faire attention à la manière dont on parle de ce conflit et à préserver son intégrité et la complexité des choses.
Vous êtes resté combien de temps à Gaza ?
Je suis rentré à l'armée au lendemain des attaques du 7 octobre et j'y suis depuis. Je suis passé par le nord du pays, la frontière nord, où on jouait au chat et à la souris avec le Hezbollah. Puis, brièvement, le nord de la bande de Gaza, où les opérations ont commencé, l'opération terrestre. Pour le plus clair de mon temps, le sud de la bande de Gaza, la région de Khan Younes, exactement.
Où sont d'ailleurs les combats les plus terribles. Je voudrais vous poser une question, c'est quelque chose que je n'ai pas compris aujourd'hui, mais notamment parce que je ne suis pas militaire. Les Israéliens ont quitté une zone dans le centre de la bande de Gaza, et le Hamas s'est fait le plaisir, on va dire, plaisir politique, plaisir militaire, mais ils se sont fait le truc de bombarder Netivot avec une trentaine de roquettes le lendemain du retrait des Israéliens. Il y a quelque chose que ne comprennent pas les auditeurs et moi avec eux. Si on était dans un lieu, comment ça se fait qu'on peut après nous faire un tir massif en territoire israélien, puisqu'on va là-bas justement pour retirer ce potentiel, pour retirer les roquettes, pour retrouver les arsenaux. Qu'est-ce que ça signifie exactement qu'il y a eu une erreur de fait justement, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Comment ça se fait? Les Israéliens étaient là-bas hier et aujourd'hui, le Hamas se paye le truc d'envoyer un tir de barrage sur toutes les villes autour de Netivot en Israël. D'après vous, votre analyse, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je vous répondrai peut-être, parce que vous avez la mémoire longue de ces conflits, avec ce qui s'est passé, je ne sais pas, à la fin de la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, ouais. Où les derniers jours, c'était très important pour le Hezbollah de continuer à tirer des roquettes. Et si vous voulez, l'analyse, c'est un peu comme un petit voyou que vous attrapez par le collet. Et quand vous l'attrapez par le collet, il vous dit pardon. Et quand vous le laissez partir, il recommence à vous insulter. Ça, c'est vraiment c'est tout ce qui reste au Hamas, c'est d'être capable de mobiliser des roquettes cachées ou des résidus pour répondre et garder cette image.
Même pas mal. Vous dites c'est comme un gosse. Donc il dirait même pas mal. Non, tu m'as pas fait mal.
Voilà, mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que c'est toujours un choc pour des gens qui ont été au fil des années qui ont subi des lavages de cerveau, de se retrouver face à des jeunes soldats, parce que moi je suis pas un jeune soldat, mais la plupart sont des jeunes soldats, il y a des réservistes, mais voilà. Qui leur font face dans des batailles et dont l'issue de ces batailles, quand ce sont des batailles face à face, est presque tout le temps, à 100% presque, la même. C'est-à-dire qu'ils sont défaits par cette armée. Ça c'est la réalité du terrain. Après, on ne pourra jamais empêcher, à moins de vouloir faire payer aux Palestiniens un prix que même nous ne sommes pas prêts à leur faire payer, qu'il y ait encore des roquettes qui soient envoyées. La question de démanteler l'infrastructure militaire dans ce cas-là d'établi et la question de ne plus jamais avoir un tiers de requête, c'est pas la même question.
Alors, dans ce qui est complexe, par exemple, j'ai vu, vous avez dit dans une interview parisienne, vous avez dit, vous savez, aujourd'hui, un terroriste, c'est un monsieur qui a mon âge, qui traverse la rue avec en short et en tongs, mais c'est un terroriste. 2 minutes après, il peut vous tirer dessus avec un RPG. Mais il n'y a pas. C'est très difficile pour vous à Gaza d'identifier qui est terroriste, qui l'est pas.
Il y a très peu de ces combats où les choses sont claires, une force du Hamas face à une force de Tsahal et une bataille et l'issue de la bataille. Effectivement, aujourd'hui, il y a un choix stratégique fait par le Hamas de se mêler à la population civile qui rend les choses très difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tous les efforts pour éviter, évidemment, de tuer des civils, mais ça veut dire que cette stratégie met en danger les civils palestiniens.
Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des soldats? Alors, il y a eu l'enthousiasme, il y a eu ce très beau mot israélien qui est l'ardout, et ça a caractérisé les 3 premiers mois. Mais là maintenant, on rentre dans les 3 mois suivants, car on a bien compris que ça ne va pas s'arrêter dans 15 jours. Quel est l'état d'esprit? Est-ce que on a gardé l'enthousiasme? Ce qui m'étonnerait, franchement. En plus, il pleut à Gaza en ce moment, c'est pas marrant. Au bout de 3 mois, ça fait longtemps qu'on a quitté son travail. Enfin, je vais pas parler à votre place, mais d'après moi, on n'est pas dans l'enthousiasme des premiers jours où vous me démentez. Vous me dites non, non, pas du tout. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des soldats israéliens à Gaza?
Je ne sais pas si le mot d'enthousiasme avait sa place. Il n'a jamais eu sa place parce que le 7 octobre, il y a d'abord eu un choc, une profonde tristesse et la certitude d'avoir à mener une guerre qui est une guerre juste. Ensuite, il reste cette tristesse et cette blessure pour les otages. Qu'on n'a pas réussi à ramener, et à part ceux qui ont été ramenés dans un deal dont vous connaissez, dans un process de négociation dont vous connaissez les détails. Qu'est-ce qui reste? Il reste juste de composer avec une réalité difficile, qui est qu'on est face à un ennemi cruel, qui n'a pas d'égard, même pour sa propre population civile, alors encore moins pour la nôtre. Et voilà, il faut se rappeler que Sinwar, quand il a été condamné à perpétuité et mis dans les geôles israéliennes avant le deal de Gilad Shalit qui l'a vu libéré, il a été condamné pour avoir massacré, non pas des Israéliens, mais des Palestiniens, des collaborateurs, ou lui, il les appelait comme ça. Et donc, il n'a pas de problème à continuer à sacrifier sa propre population et on doit continuer à essayer de vivre tout simplement. Donc pour les réservistes, ça veut dire retourner à la vie civile en sachant qu'on va devoir faire plus de périodes de réserve. Et pour l'armée de conscription, ça va vouloir dire continuer, même sous une autre forme, une autre intensité, les opérations dans la bande de Gaza pour s'assurer qu'un nouveau 7 octobre n'arrivera pas.
Faut savoir que c'est très dur, hein. Au niveau statique, tout le monde en parle. Pourquoi ils rentrent pas dans l'axe de Philadelphie? Bon, il va y avoir le corridor, la zone tampon, ça. Faut se préparer au fait que ça sera très dur. Des soldats qui sont en situation statique sur la durée, face à des gens qui vont les harceler, c'est faut savoir, hein, ça, que c'est très dur. D'ailleurs, juste une précision sur le mot enthousiasme. Je sais pas si c'est Hitler à voûte que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, je suis même certain que vous avez compris, c'est Eyal Golan, Enlano Ed Medina, les gens qui sont dans la rue, qui applaudissent les tanks quand ils les voient passer. Moi, j'ai vu des images, les gens dans leurs immeubles le soir à Netivot, ils applaudissaient. On a vu, c'est-à-dire dans leur maison, ils applaudissaient à chaque. Il y avait un élan, alors appelons ça un élan,
Un élan.
et après, énorme, qu'on n'a jamais connu. Une hardoute, ça s'appelle hardoute en hébreu. Beaucoup d'auditeurs connaissent ce mot de toute façon, tellement il est gros. Tellement il a surpris tout le monde. D'ailleurs, peut-être vous voulez commenter ce qu'on a vu tout de suite après. Et d'ailleurs, c'est la première erreur du Hamas. Parce que le Hamas avait cru aux histoires de la place de Rehov Kaplan à Tel Aviv. Il avait cru, on fera plus les Milouim, on n'ira plus. En un claquement de doigts, terminé, tout le monde est là. Donc je sais pas d'ailleurs, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ça, Noam?
Oui, il y a un sentiment simplement de d'évidence pour tous les Israéliens, quel que soit leur bord politique, quand ce qui s'est passé le 7 octobre s'est passé. Et vous le savez, beaucoup de vos auditeurs, ça s'est passé au cœur du peuple de gauche, n'est-ce pas, de ces kibboutz qui sont souvent d'un bord politique plutôt que d'un autre. Et pourtant, tout le monde est venu. Il n'y a pas eu de question. Ça ne veut pas dire que les fractures de la société israélienne ont disparu, bien sûr. Ça veut juste dire que on peut, qu'il y a un socle commun sur lequel on peut s'entendre. Et ce socle aujourd'hui, c'est que on peut pas vivre avec des voisins qui ont clairement, en tout cas leur leadership. Énoncer leur volonté de perpétuer des crimes comme ça à répétition et dit que ce n'est que la première étape. Donc il faut trouver les moyens de. Et c'est ça que je dirais plus largement sur votre question. Ça va être difficile pour les soldats. Je pense qu'il y a une réalisation dans la société israélienne que les soldats sont là pour protéger les civils. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est inacceptable. Et peut-être qu'il y a un coût important pour les soldats, et je me permets de dire ça de manière si directe parce que j'y suis et j'en suis. Mais c'est le rôle de l'armée. Voilà, dans une société, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il faut restaurer ça, sinon, on sera dans une situation très, très difficile.
J'aimerais vous poser une question sur le manque de matériel. Ça aussi, on ne sait pas. Là aussi, pour le coup, on dit tout et n'importe quoi. On entend n'importe quoi sur cette question du manque de matériel. J'ai vu des gens se mobiliser pour des lunettes de vue pour des soldats. J'ai vu ça, moi. Et d'un autre côté, on se dit, mais non, attends, cette salle. Et je vois vraiment des gens qui sont au nord et qui n'ont pas de casque. N'ont pas de casque. Et comme on est en Israël. S'il n'y a pas les 15 casques pour les 15 membres de l'unité, personne n'en a parce que. Et là, tant mieux, parce que ça, c'est le beau côté d'Israël. On ne dit pas moi j'ai et toi t'as pas. Mais c'est vraiment, au moins au niveau du discours, tout et n'importe quoi. On ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Comment ça se fait qu'à la fois, on est capable de faire, par exemple, d'éliminer l'un des cinq principaux responsables du Hamas en étant à Beyrouth, dans le lieu le plus sécurisé de Beyrouth, en faisant vraiment une opération d'un éclat mondial. Et à la fois, on nous dit, les soldats, ils n'ont pas de gilet pare-balles. Là, pour le coup, on comprend pas.
Moi, je ne suis pas porte-parole ni du gouvernement ni de l'armée israélienne. Donc, si vous me dites comme ça, de manière anecdotique, tout ce que je peux dire, c'est que il y a eu 350 000 réservistes et que c'est pas quelque chose qui était vraiment probablement envisageable et envisagé. Et c'est une des raisons pour lesquelles cet échec a eu lieu dans de telles proportions et que effectivement, peut-être que l'armée aurait été prête à s'organiser plus rapidement s'il y avait eu 50 000 ou 100 000 réservistes. Mais quand vous avez une telle proportion de la population qui débarque dans des bases et ailleurs, alors vous avez un bazar. Comme souvent en Israël, le bazar a duré un temps, mais n'a duré qu'un temps, et finalement, les gens sont retombés sur leurs pattes.
Je crois ça, ouais. En effet, ça doit être ça. Surtout une guerre de fantassins. Fantassins, c'est beaucoup de monde et il faut équiper tout le monde. Noam Ohana, merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Vous qui êtes soldat dans les forces spéciales de Tsahal et qui êtes de retour de Gaza.
Bernard, si vous me permettez juste un mot, je pense que la communauté juive et la diaspora en général ne comprend pas toujours le rôle fondamental qu'elle peut jouer, surtout dans ce drame qui est celui des otages. Et donc, il faut pas sous-estimer ce qu'on peut tous faire individuellement. Au niveau des décisionnaires locaux, des contacts et de la sensibilisation qu'on peut avoir, quelles que soient les opinions que les uns et les autres peuvent avoir en France sur le conflit, il devrait y avoir une forme de consensus sur le fait que ces 19 femmes qui sont encore dans la bande de Gaza, dont l'âge va de 18 à 70 ans, dont on sait qu'une partie ont subi des sévices sexuels et peut-être continuent de les subir dans des caves, il est inadmissible que des grandes démocraties occidentales comme la France ne fassent pas plus pour que ces otages rentrent chez eux. Et tout un chacun peut porter ça et en parler et ne pas les oublier.
Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je voudrais aussi, je ne sais même pas si je l'ai déjà fait à l'antenne, je voudrais aussi rendre hommage aux auditeurs. Parce que j'ai fait deux intifadas, en tant que journaliste, évidemment, deux guerres du Liban, deux guerres du Golfe, au bout d'un moment. Comme vous disiez, ça fait. Moi, par exemple, vous disiez le dernier jour de la guerre. Il faut savoir que le fils de l'écrivain David Grossman est mort après la paix. Les gars du Hezbollah ont tiré alors que l'accord était déjà conclu entre Israël et le Hezbollah lors de la deuxième guerre du Liban. Mais je voudrais en profiter parce que j'ai rarement vu une telle mobilisation. Mais avec tous les événements que je viens de vous dire, ça fait beaucoup. J'ai jamais vu ça. Wow. À ce point-là, des initiatives et des initiatives venant de femmes qui se mobilisent à trois, à quatre, comme vous voulez, qui font déjà, quand elles sont en Israël, elles font les sandwichs tant qu'il faudra les faire. En France, on voit des choses, on voit énormément de mobilisation. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'association. Tout ça passe par des groupes WhatsApp et je vois une mobilisation qui est exceptionnelle. Je vous le dis, moi, il est possible, à mon niveau, je ne suis pas une agence de presse, à mon niveau, je crois que j'ai jamais vu ça. Donc, on peut aussi, à cette occasion, bien sûr, on a une pensée très forte pour ceux qui sont là-bas. C'est le début. On commence par là. Mais après, je voudrais aussi, puisque vous m'en donnez l'occasion, Noam, dire tout mon admiration pour tous ces gens, tous ces anonymes qui ont fait, qui se sont mobilisés de cette manière-là, dans les familles, partout. Noam Ohana, merci. Et merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir.